Vous écoutez, on lit pour vous.
Un gros astéroïde frôlera la Terre dans 5 ans. Un texte de Lisette Ortega du Washington Post paru le 6 août 2024 dans Le Devoir. Dans quelques années, un énorme caillou venu de l'espace passera à côté de la Terre à une vitesse 10 fois plus rapide qu'une balle de fusil. Ce sera la première fois qu'un astéroïde de cette taille s'approchera suffisamment pour que les habitants de certaines régions d'Europe occidentale et d'Afrique puissent le voir filer dans le ciel sans avoir besoin d'un télescope ou de jumelles sophistiquées. Environ 2 milliards de personnes pourront assister à cet événement rare. Une chose est sûre, l'astéroïde ne va pas heurter la Terre, ni de notre vivant, ni de celui de nos enfants, en tout cas. Au lieu de cela, comme si l'univers nous faisait une blague, l'astéroïde passera étrangement près de nous le vendredi 13 avril 2029. L'astéroïde, baptisé Apophis, passera plus près de la Terre que les satellites qui permettent de surveiller la météo, et sera environ 10 fois plus près que la Lune. La nature réalise pour nous cette expérience qui a lieu une fois tous les plusieurs milliers d'années. Nous devons trouver comment l'observer, dit Richard P. Binzel, professeur de sciences planétaires au MIT. Apophis est une occasion unique d'étudier les astéroïdes. Le fait de l'observer de près aidera les scientifiques à déterminer comment protéger notre planète contre un astéroïde qui s'apprêterait à l'engloutir dans l'avenir. Mais les missions spatiales mettent des années à se planifier et il reste moins de 5 ans avant qu'Apophis ne s'approche de la Terre. « Nous manquons de temps », affirme Jason Caliré, responsable de la préparation spatiale au laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins. Une présentation d'Apophis. Apophis est à peu près aussi large que la tour Eiffel est haute. Bien que les scientifiques ne disposent pas encore d'images de l'astéroïde, ils ont déterminé à l'aide de données radar qu'Apophis a à peu près la forme d'une cacahuète. Le rocher, qui, selon les scientifiques, possède 2 lobes, vaque paisiblement à ses affaires dans l'espace, ce qui n'était pas évident lorsqu'il a été découvert en juin 2004 par des scientifiques de l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Plus tard dans l'année, les chercheurs ont calculé qu'il y avait 2,7% de chances que la rencontre de l'astéroïde avec la Terre en 2029 se traduise par une violente collision et non par un survol inoffensif. S'il rencontrait une zone peuplée, il pourrait détruire une ville de la taille de New York, explique Daniela Della Giustina, responsable scientifique de la mission Osiris Apex de la NASA, consacrée à Apophis. Apophis a fait une si mauvaise première impression sur le monde qu'il a été nommé d'après le dieu égyptien de l'obscurité et du chaos. Ce n'est qu'en mars 2021 que les scientifiques ont pu exclure la possibilité d'une collision entre Apophis et la Terre pour les 100 prochaines années au moins. À l'aide d'une antenne radio de 70 mètres de long installée en Californie, les scientifiques ont recueilli les données nécessaires pour blanchir le nom d'Apophis et le retirer de la liste Sentry de la NASA, qui recense les astéroïdes risquant possiblement d'affecter la Terre au cours du siècle à venir. Apophis passera à moins de 32 000 km de la Terre, soit à quelques kilomètres près. Lorsque 2 objets se rapprochent dans l'espace, ils exercent des forces l'un sur l'autre. Tout comme la Terre subit des forces de marée générées par la Lune, Apophis subira les forces de marée générées par la Terre. Alors que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur Terre, celle de la Terre pourrait provoquer de mini-séismes sur Apophis. Son survol au-dessus de la Terre sera la première occasion d'observer l'activité sismique d'un astéroïde. La chasse aux astéroïdes. Maintenant que les scientifiques savent qu'Apophis n'entrera pas en collision avec la Terre, ils se penchent sur un autre problème. Comment arriver à temps sur Apophis? Que faisons-nous au sujet d'Apophis? Je dirais pas assez, déclare M. Caliré. Bien qu'Apophis soit une source de fascination depuis 2 décennies, personne ne sait à quoi il ressemble réellement. nombre de ses propriétés fondamentales reste inconnu, notamment sa masse et sa structure. Récemment, les capacités de défense planétaire de la Terre ont été mises à l'épreuve par la mission DART, Double Asteroid Redirection Test, de la NASA, au cours de laquelle des chercheurs de Johns Hopkins ont réussi à faire percuter un astéroïde par un engin spatial afin de modifier son orbite. Bien que les chercheurs soient fiers du DART, ils soulignent que la trousse d'outils d'autodéfense de la Terre n'est pas complète. La défense planétaire ne consiste pas seulement à donner des uppercuts célestes. Les scientifiques doivent être en mesure de localiser les astéroïdes et d'étudier leurs caractéristiques pour mettre en place une réponse efficace. Vous écoutez « Un gros astéroïde frôlera la Terre dans 5 ans », un texte de Lisette Ortega du Washington Post paru le 6 août 2024 dans Le Devoir. Apophis est l'occasion de mettre en pratique les efforts de caractérisation qui pourraient être déployés pour mieux comprendre un objet spatial. Les leçons que nous en tirerons pourront être appliquées à l'avenir lorsque nous trouverons un astéroïde venant dans notre direction, dit Tarik Daly, planétologue participant aux missions DART et OSIRIS-APEX. La mission OSIRIS-APEX de la NASA réorientera un engin spatial afin qu'il analyse Apophis après son approche de la Terre. La mission étudiera comment l'astéroïde a été affecté par la gravité terrestre en utilisant des images à haute résolution de sa surface. La sonde OSIRIS-APEX pourra également utiliser ses propulseurs pour soulever de la poussière sur l'astéroïde. Les scientifiques connaîtront ainsi la résistance de la surface d'Apophis, ce qui leur permettra de déterminer comment dévier l'astéroïde à l'avenir, si nécessaire. Par exemple, si la surface de l'astéroïde est résistante et ne se brise pas facilement, une approche d'impact telle que DART pourrait ne pas être efficace pour modifier l'orbite de l'astéroïde. Une inspection minutieuse des astéroïdes peut également aider à répondre à des questions de longue date sur le système solaire, notamment d'où vient l'eau de la Terre? En comparant l'eau sur Terre et sur les astéroïdes, les scientifiques peuvent rechercher des similitudes qui fournissent des indices sur la manière dont cette ressource importante est arrivée sur notre planète il y a des milliards d'années. Mais OSIRIS-APEX ne peut pas rester seul. Le vaisseau spatial de la mission étant déjà en orbite et disposant de peu de carburant, il ne pourra atteindre Apophis qu'en juin 2029, 2 mois après son approche la plus proche de la Terre. Si les scientifiques veulent comprendre pleinement Apophis et la façon dont il a été affecté par la Terre, il faut que des missions étudient l'astéroïde avant et pendant le moment où il sera au plus près de la Terre. À ce jour, OSIRIS-APEX est la seule mission vers Apophis confirmée et entièrement financée. Pas d'argent, pas de Bruce Willis. À l'occasion de l'événement Apophis T5 Years, un atelier de 2 jours visant à encourager la collaboration internationale sur les missions Apophis, les scientifiques ont proposé plus de 20 engins spatiaux et charges utiles, sondes, satellites, antennes, etc., combinés. Dans un monde idéal, nous aurions une flotte de missions vers Apophis, dit M. Caliré. Mais les scientifiques disposent de moins de 5 ans pour développer, construire et lancer une mission. Outre le temps, l'argent manque pour financer les missions vers Apophis. Pas d'argent, pas de Bruce Willis, comme dans le film Armageddon, dit M. Binzel. C'est pourquoi de nombreux scientifiques tentent de réaffecter d'anciennes missions pour gagner du temps et ménager les portefeuilles. Les experts exhortent la NASA à étudier Apophis avant son survol à l'aide de la sonde Janus, qui devait être lancée en 2023 dans le cadre d'une mission distincte. Après des retards dans cette mission, l'engin a été mis en entreposage pour une durée indéterminée. Lors de l'événement Apophis T5 Years, les scientifiques ont décrit une rencontre avant le survol d'Apophis comme une mission à la recherche d'un engin spatial. Il pense que ce besoin pourrait être satisfait par Janus, qui est un engin spatial à la recherche d'une mission. Blue Origin, une société spatiale privée fondée par Jeff Bezos, a indiqué que son vaisseau spatial Blue Ring pourrait rencontrer Apophis 3 mois avant le survol. Le vaisseau dispose de 13 emplacements pour la charge utile, ce qui permet de partager le coût de la mission entre plusieurs parties. Bezos est propriétaire du Washington Post. De toutes les propositions qui circulent, c'est une mission développée par l'Agence spatiale européenne qui est la plus proche de se concrétiser. Dans un acte de recyclage similaire à Osiris-Apex, la mission RAMSES, Rapid Apophis Mission for Space Safety, de l'ESA, utilise la technologie mise au point par la mission ERA, qui devrait être lancée cette année pour étudier les conséquences de la mission DART. RAMSES rencontrera Apophis 2 mois avant son survol et restera à proximité pour observer comment il est affecté par la gravité de la Terre. La mission surveillera la façon dont la Terre modifie la rotation d'Apophis, un élément qui joue un rôle important dans l'évolution de son orbite dans l'avenir. Le comité du programme de sécurité spatiale a donné à l'ESA l'autorisation de commencer à travailler sur la mission. Cependant, RAMSES n'est pas encore prêt. La mission attend l'approbation finale du financement par le conseil ministériel de l'ESA, qui prendra sa décision à la fin de l'année prochaine. Bien que l'exploration spatiale soit techniquement compliquée, de nombreux progrès ont été réalisés dans les dernières années, ce qui a permis d'augmenter le nombre de missions possibles et réussies. Les scientifiques ont même envoyé un vaisseau spatial pour creuser dans un astéroïde et en ramener des morceaux sur Terre. Par conséquent, une grande partie de la technologie nécessaire à l'exploration d'Apophis existe déjà, ce qui fait que le goulet d'étranglement est essentiellement d'ordre financier. S'il y a peu de chances que la Terre rencontre prochainement un astéroïde susceptible de provoquer une extinction massive, il existe une probabilité de 100% qu'un astéroïde dévastateur risque de frapper la Terre à un moment ou à un autre. La question est de savoir quand et si nous sommes capables de le prévenir avant que cela n'arrive, dit Bruce Betts, scientifique en chef de la Planetary Society, qui milite pour l'exploration de l'espace. Contrairement à la plupart des catastrophes naturelles, les collisions d'astéroïdes peuvent être évitées s'il existe des outils permettant de suivre les cailloux spatiaux et d'agir en autodéfense si nécessaire. Selon M. Binzel, se doter d'une boîte à outils de défense de la planète n'est pas une question de peur. Il s'agit simplement d'une question de responsabilité raisonnable. C'était « Un gros astéroïde frôlera la Terre dans 5 ans ». Un texte de Lisette Ortega du Washington Post paru le 6 août 2024 dans Le Devoir.
La pollution dans la pluie. Un texte de Mathieu Perrault paru le 14 juillet 2024 dans La Presse. Jean Pellerin, un lecteur, demande « À Montréal, l'eau de pluie est-elle de plus en plus polluée? » Il y a quelques études sur le sujet, mais pas à Montréal, explique Benoît Barbeau, spécialiste de l'eau potable à Polytechnique Montréal. L'eau de pluie partout sur la planète a une signature humaine en termes de pollution biologique et chimique. Mais ça dépend des conditions locales. Les études en Asie, par exemple en Inde, ont des taux de contamination élevés. Mais si on est au nord du Mont-Tremblant, c'est probablement faible. La pluie lave l'atmosphère de ces contaminants, explique l'ingénieur civil de Polytechnique. Et des gouttelettes d'eau peuvent s'agglomérer autour de particules chimiques de polluants. Il serait intéressant de voir quel effet ont eu les incendies de forêt de l'an dernier sur la contamination de l'eau de pluie, dit M. Barbeau. Est-il dangereux d'ouvrir la bouche pour boire de la pluie contaminée? À moins qu'il tombe des cordes comme durant la mousson au Vietnam, on va prendre de 5 à 10 millilitres au maximum. Alors, je ne pense pas, dit M. Barbeau. Il ne faut toutefois pas boire directement l'eau de pluie recueillie dans un récipient, à moins de le sortir au début de la pluie et le rentrer rapidement. Si on laisse un réservoir dehors, il va y avoir des dépôts de pollution au fil des jours et de la contamination microbienne provenant des oiseaux et des animaux, dit Mathieu Lapointe de l'École de technologie supérieure ETS. M. Lapointe est spécialiste de l'eau de ruissellement qui va vers les cours d'eau après avoir transité par les terres. Il met notamment au point des technologies de traitement des eaux de ruissellement agricole. Perfluoré. En 2022, une étude européenne publiée dans la revue Environmental Science and Technology concluait que l'eau de pluie contenait souvent plus de perfluoré que les normes américaines alors en vigueur. Elles ont depuis été resserrées. Les perfluorés, aussi appelés PFAS, sont souvent surnommés « polluants éternels » et sont utilisés dans une foule de produits de consommation, des poêles et des tissus anti-taches aux mousses anti-incendie. Selon Sébastien Sauvé, chimiste à l'Université de Montréal, qui a beaucoup travaillé sur les perfluorés, il y a eu beaucoup d'études sur les PFAS dans l'eau de pluie et beaucoup de résultats différents. Certains au-dessus des normes, d'autres en dessous. Ça dépend des méthodes de mesure, probablement aussi de la météo. Face aux pénuries d'eau dans certaines régions du Canada, des rapports provinciaux et fédéraux ont évalué la contamination des citernes d'eau de pluie il y a de 10 à 15 ans. En 2013, un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logements énumérait les types de traitements nécessaires pour différents usages de l'eau de pluie. Lavage de vêtements, toilettes, jardins. Le rapport de 2013 précisait que le Texas oblige les immeubles gouvernementaux à récupérer l'eau de pluie et qu'en Allemagne, en Belgique et au Japon, la rétention et l'utilisation de l'eau de pluie est encouragée, notamment pour réduire la pression sur les égouts. En savoir plus. Société canadienne d'hypothèques et de logements. 50% proportion des maisons d'Adélaïde en Australie qui sont équipées de récupérateurs d'eau de pluie. C'était La pollution dans la pluie. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 juillet 2024 dans La Presse.
Les petites villes du Canada sont moins bien desservies par les compagnies aériennes. Un texte de Radio-Canada, avec les informations de La Presse canadienne, paru le 11 août 2024, sur ici Terre-Neuve et Labrador. Au moment où le nombre total de passagers intérieurs au Canada se situe désormais aux alentours des niveaux d'avant la pandémie de COVID-19, les voyages aériens vers les petites collectivités et même les villes de taille moyenne ont diminué, ce qui a fait grimper les tarifs et a laissé certaines régions du pays moins bien desservies. De son bureau donnant sur la piste de l'aéroport international de Gander, Reg Wright peut voir tous les vols en provenance et à destination de son coin de pays. Mais ces dernières années, ses observations d'avions se sont faites plus rares et plus espacées. L'aéroport a perdu 4 lignes depuis 2019, dont une ligne de WestJet vers Halifax, a expliqué M. Wright. Un tiers de nos passagers se sont volatilisés. Nous ne sommes en aucun cas rétablis. Selon le Conseil des aéroports du Canada, les 30 plus grands aéroports du pays ont vu leur capacité d'accueil revenir à 98 % des niveaux de 2019 en moyenne. Les 30 suivants sont à peine à 70 %. La reprise des voyages est due à une augmentation des vols dans les grandes villes. Les volumes de vols ont augmenté de 19 % pour la ligne Vancouver-Montréal, de 12 % pour Toronto-Vancouver, de 10 % pour Calgary-Vancouver et de 51 % pour Ottawa-Calgary au cours des 5 dernières années, selon les chiffres fournis à la presse canadienne par la Société d'analyse de données sur l'aviation Cirium. Ainsi, les tarifs aériens ont chuté de 2 à 11% sur ces lignes malgré une inflation galopante et des augmentations tarifaires généralisées. Cependant, le trafic aérien régional reste bien en deçà des niveaux de 2019. Un échantillon aléatoire en dit long. Le nombre de vols directs a chuté de 49% pour le trajet Sault-Sainte-Marie-Toronto, de 41% pour Regina-Calgary et de 100% pour Québec-Rouyn-Noranda entre mai 2019 et mai 2024. Le trajet en voiture entre ces villes durerait au moins de 5 à 7 heures sans aucun arrêt. Entre-temps, les tarifs des vols reliant ces duos de villes ont augmenté respectivement de 54 % 16 % et 173 % selon Cirium. Les aéroports des communautés éloignées servent de plaque tournante clé pour les services essentiels. Si vous êtes au Yukon et que vous devez vous rendre à Vancouver pour vos rendez-vous médicaux, voici les rôles essentiels. Qu'il s'agisse de lutter contre les incendies, de déplacer les travailleurs de la santé, voire de mettre de la nourriture sur les étagères de nos épiceries, a déclaré la présidente du Conseil des aéroports du Canada, Monette Pachère. Le manque d'accès aérien, en temps opportun, désavantage également les communautés sur le plan économique. L'aviation est vraiment un mur porteur qui maintient notre pays ensemble. Et il y a beaucoup de communautés rurales et éloignées, comme la mienne, qui dépendent entièrement du transport aérien pour avoir cette utilité économique et sociale et être des participants significatifs au village planétaire, a soutenu M. Wright. Les enjeux sont très élevés. La diminution du nombre de vols peut également compliquer les voyages de tourisme et d'affaires, allongeant la durée totale des trajets et entraînant parfois des escales épuisantes. La pénurie de départ a incité certains voyageurs à se tourner vers le sud pour trouver des vols. Au départ de Détroit, de Plattsburgh dans l'État de New York et de Bellingham dans l'État de Washington, par exemple, ce qui a réduit les revenus des compagnies aériennes et des aéroports canadiens. Changement des parcs et pénurie de pilotes. Plusieurs raisons expliquent la baisse des vols régionaux. Pendant la pandémie, les transporteurs ont profité de l'occasion pour réduire leur parc en abandonnant les avions plus anciens au profit de nouveaux et plus gros. Les avions plus récents sont plus efficaces, tout comme les modèles commerciaux qui exploitent moins de vols et qui transportent plus de passagers sur de plus longues distances. Un plus grand nombre de clients par voyage signifie des marges bénéficiaires plus importantes, tandis qu'un nombre réduit de décollages signifie des coûts de carburant plus faibles, puisque les ascensions en avion consomment beaucoup de carburant. Une pénurie de pilotes, en particulier sur les transporteurs régionaux, et une augmentation des salaires contribue également à expliquer la pénurie de services à la suite de la baisse des inscriptions dans les écoles de pilotage pendant la pandémie de COVID-19. On ne sort pas les pilotes d'un distributeur automatique. Cela prend du temps, a affirmé M. Wright. Lorsque les coûts des pilotes atteignent un point d'inflexion, comme ils l'ont fait au cours des 3 dernières années, amortir le salaire d'un pilote sur 17 sièges devient pratiquement impossible, a ajouté Duncan Dee, ancien chef de l'exploitation d'Air Canada. La concurrence sur de nombreuses lignes a également diminué. WestJet s'est retiré de presque tous les marchés de courte distance à l'est de Winnipeg pendant la pandémie. Air Canada a suivi cette tendance, restant dans le centre et l'est du Canada, tout en réduisant ses activités dans l'ouest. Plus de soutien demandé. Au Cap-Breton, les résidents doivent désormais passer par Montréal ou Toronto s'ils veulent prendre l'avion pour Halifax, les deux compagnies aériennes étant passées de 240 vols par mois à zéro. Pour la première fois en 75 ans, nous avons perdu tous nos services quotidiens, a déclaré Mme Pascher à propos de l'aéroport de Sydney en Nouvelle-Écosse. Elle et d'autres personnes ont exigé une augmentation du financement du programme fédéral d'aide aux immobilisations aéroportuaires. Ce programme finance les améliorations des petits aéroports, mais son plafond de 38 millions de dollars est resté inchangé depuis 2000. Les aéroports réclament 95 millions par an. D'autres experts affirment qu'un soutien plus direct aux vols régionaux est nécessaire, notamment au sud de la frontière. Le programme américain Essential Air Service assure des vols réguliers vers des centaines de petites communautés en subventionnant des services aériens qui, autrement, ne seraient pas suffisamment rentables pour les transporteurs qui soumissionnent les contrats. Nous avons laissé le marché juger de la viabilité des services régionaux, a expliqué John Gradek, qui enseigne la gestion de l'aviation à l'Université McGill. De retour à Gander, où la ténacité et l'hospitalité des habitants ont été connues dans le monde entier grâce à la pièce à succès de Broadway, Come From Away, qui raconte l'accueil de plus de 6500 voyageurs de 38 avions qui ont débarqué à l'aéroport le 11 septembre 2001. Monsieur Wright fait le point. Les grandes foules de gens à l'aéroport Pearson ou à Trudeau ne racontent pas l'histoire du fait que, d'un océan à l'autre, il existe des marchés ruraux qui sont vraiment au bord du gouffre en termes de services aériens. C'était « Les petites villes du Canada sont moins bien desservies par les compagnies aériennes », un texte de Radio-Canada avec les informations de la presse canadienne paru le 11 août 2024 sur « Ici Terre-Neuve et Labrador ».